Bienvenue chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Dans le cadre de mon émission Bienvenue chez le roi, je vous propose une saga romantique dont je suis l'auteur. Dans les Lumières de l'amour, je vous entraîne à la cour de Louis XV avec le prince russe Victor Casbec et la duchesse Marie-Angélique de la Doucelle. Sur la route de Versailles, le prince Casbec et le chevalier Déon font une halte au château de Sanssouci, chez Frédéric II de Prusse. Restait immobile, muet d'admiration, planté là, devant le pèlerinage à l'île de Cythère de Watteau. Il appréciait en connaisseur la délicatesse du paysage et la grâce des personnages. Certes, il y avait de très belles choses au palais Stroganov, car ses parents étaient des collectionneurs avisés. Mais ce qu'il voyait là dépassait l'imagination. Tout ce qu'il contemplait autour de lui racontait le soin, la patience et les moyens que Frédéric avait dû déployer pour réunir dans un seul endroit de semblables merveilles. Le roi avait accroché des œuvres splendides aux cimaises de son palais de Sanssouci. Le peintre français était très bien représenté par de nombreuses toiles, dont à l'autre bout du salon, l'enseigne de Guersin. Mais il y avait aussi trois tableaux de Chardin. La déclaration d'amour, exquise, avec les robes chatoyantes des dames de Deux-Trois, et ce moulinet devant la tonnelle de Nicolas Lancret. Il remarqua avec amusement que la tonnelle en question ressemblait comme deux gouttes d'eau à celle que Frédéric avait conçue pour son parc. De là à imaginer que le modèle était sur le tableau, il n'y avait qu'un pas que Victor franchit allègrement. Un valet vint l'avertir que l'on dînerait dans la salle de marbre du palais, ponctuée de colonnes cannelées au chapiteau corinthien. Sur une table, nappée de blanc, le couvert était déjà mis avec recherche. Tout était harmonieux, bouquets de fleurs, bougies, argenterie, verres à pied de cristal, assiettes en porcelaine de Mécène qui venait de Saxe. Cette manufacture avait été créée en 1710 par le prince électeur de Saxe. Or, Frédéric Auguste était passionné par la porcelaine. En 1717, il avait même échangé son propre régiment de dragons contre 152 vases en porcelaine de Chine avec le roi de Prusse, prédécesseur de Frédéric II. « Curieux troc !» songea Victor. Tout le monde entra sans protocole. Le roi d'abord, bien sûr. Voltaire s'assit en face de lui, à côté de Christoph Ludwig von Stille, en uniforme rouge, près de Giacomo Casanova. L'aventurier qui traînait sa réputation sulfureuse dans toute l'Europe semblait fasciné par l'IA de Beaumont, perruqué, poudré et maquillé. Venait à la suite un autre Français, philosophe, Jean-Baptiste Boyer d'Argence, près de qui s'installa Victor. Puis, un autre philosophe, vénitien celui-là, Francesco Algarotti. Et enfin, Friedrich Rudolf von Rothenburg. Indéniablement, Voltaire était en verve. Il parlait de choses et d'autres, tour à tour profondes ou futiles, mais avec cette belle langue française qu'il maniait avec tant d'élégance. D'ailleurs, tout autour de la table ronde, tout le monde parlait français. Et couché sous la table, il y avait l'un des lévriers de Frédéric, qui ne se séparait jamais de son chien favori. Élégant, habit de velours, jabot de dentelle sur des chemises blanches, perruques frisées et poudrées, les convives étaient assis sur de grandes chaises capitonnées à hauts dossiers sculptés. Cinq valets les servaient. La porte-fenêtre était ouverte sur la terrasse et laissait entrer le soleil dans la pièce. « Savez-vous, sire, que nous avons échangé, vous et moi, près de 800 lettres jusqu'à présent ?» Et ce n'est pas fini. J'apprécie, mon cher Voltaire, votre correspondance. Voltaire se tourna vers les autres. « J'ai abandonné la France car j'ai subi le désamour des Parisiens qui sifflaient mes pièces. Et j'ai retrouvé à Potsdam mes bons amis, la Métrie et Maupertuis, qui font partie de mon cercle. » Il continua un peu amer. « Oh, nous avons eu bien des orages sur notre relation, n'est-ce pas, Majesté ? Mais dans le fond, nous sommes un peu comme un vieux couple au sein duquel on se pardonne tout. » Frédéric ne releva pas la critique objective et préféra questionner Lia de Beaumont et Casanova sur leur vie aventureuse. Il y avait d'ailleurs beaucoup à dire, sur l'un comme sur l'autre. Ils improvisèrent une sorte de duo de souvenirs assez drôle pour amuser les autres convives. Puis, il daigna s'adresser au jeune prince. « La cour de l'impératrice est-elle toujours aussi brillante ?»« Oui, votre majesté, très brillante. » La tsarine a le sens de la grandeur de la Russie et désire que sa cour reflète parfaitement cette grandeur. Elle y parvient d'ailleurs très bien, si vous me permettez de donner mon avis. Vous faites partie de son entourage proche ?
Oui, sire, en effet. Je suis son officier d'ordonnance et l'impératrice me fait l'honneur de m'apprécier, je crois.
Lia de Beaumont hocha discrètement la tête avec un sourire entendu. Sans cela, serions-nous ici, sur la route de Versailles ?
Versailles. L'évocation du but de son voyage ramena Victor sur terre brutalement. Il avait hâte de retrouver Marie-Angélique et redoutait pourtant le moment où il la verrait. Aurait-elle changé? L'aimait-elle toujours? D'ailleurs, serait-elle à la cour? Elle le lui avait promis, mais tiendrait-elle sa promesse? Il se sentait capable d'aller la chercher au fin fond de sa province s'il le fallait. Il n'aurait pas fait ses 2600 verstes pour rien. Roi philosophe, despote éclairé, Frédéric II était certes tout cela, mais il se targuait d'être aussi un musicien talentueux, et cela aussi était juste. Il était très fier de donner pour ses amis et pour tous ceux qu'il invitait dans son palais de « sans souci » des concerts superbes. En plus de jouer de la flûte traversière, il composait des concertos, des sonates pour flûte, plus d'une centaine, 4 symphonies et même des marches militaires à l'occasion de ses victoires. D'ailleurs, il menait dans son beau château une vie qu'il adorait. Par ailleurs, il entretenait une correspondance prolifique avec ses nombreux amis philosophes, passait beaucoup de temps dans son parc, surveillait la construction de ses fabriques, dépêchait dans toute l'Europe des chasseurs d'œuvres d'art. Écrivain aussi, il composait des poèmes en français. Il avait même écrit un ouvrage, l'Anti-Machiavel, dans lequel il expliquait sa conception de la monarchie soucieuse du bien-être du peuple. Il avait fait imprimer sur sa presse privée, installée dans son château, un premier ouvrage intitulé « Œuvre du philosophe de sans souci ». Puis d'autres ouvrages comprenant 8 odes et 16 poèmes, tous en français, édités et corrigés par Voltaire lui-même. « Va, ma chansonnette, et va dans la plate Apulia, la grande Capitanata, là où nuit et jour erre mon cœur. » Aujourd'hui, la musique était à l'honneur à Sans Souci. Le grand salon décoré de tapisseries et de miroirs accueillait les invités du roi et les musiciens qui avaient le privilège de jouer avec lui. Devant leur pupitre, éclairés chacun par une bougie placée dans un bougeoir, parmi eux, Franz Benda, violoniste de Bohème, Karl Heinrich Graun, ténor et compositeur d'opéra italien, et Carl Philipp Emanuel Bach, l'un des fils de Jean-Sébastien, qui jouait du clavecin. Assis sur de confortables bergères, Gustav Adolf von Gotter, Jacob Friedrich von Bielefeld, qui écrivait des traités politiques et des comédies, Pierre-Louis de Maupertuis, mathématicien français, philosophe et homme de lettres, l'ami de Voltaire, Wilhelmine de Béreuth et Amélie de Prusse avec sa dame d'honneur, Egmont de Chazot et Sophie Caroline, comtesse Camas. L'on joua des concertos, des sonates, le premier mouvement d'une symphonie. L'on applaudit, beaucoup. L'on but du champagne, un peu. Et l'on félicita le roi et les musiciens. Et puis l'on se retira, après une dernière promenade dans les vignes des terrasses de Sans Souci, au clair de la lune rousse.
Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit : je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. Au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune, elle répond soudain : qui frappe de la sorte ? Il dit à son tour : ouvrez votre porte pour le Dieu d'amour. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu. On cherche à la plume, on cherche à le feu. En cherchant de la sorte, qui sait ce qu'on trouva? Mais je sais que la porte sur eux se ferma.
Thank you.
retrouvez-moi la semaine prochaine pour la suite de ma saga Les Lumières de l'Amour sur les ondes de Radio Grand Ciel. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires sur mon email personnel france.guimard.roche@gmail.com.